toutes sortes de personnes qui rejettent l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont athées. Quelqu'un disait, il faut beaucoup de foi pour être athée, je trouve intéressant. Il y a des personnes qui ne veulent pas du tout parler de religion. Il y a même des personnes qui sont hostiles. Des personnes qui vont bien plus loin même que seulement rejeter l'évangile. Il y a quelques jours, le 14 mai, une effroyable attaque a visé le centre chrétien Emmanuel, situé à Goy, dans le district de Yé, au sud-soudan. Elle a coûté la vie de trois gardiens. Peut-être qu'il faut que je change de micro.
Ah, voilà, on va faire avec celui-là. Donc, je disais, le 14 mai, une effroyable attaque a visé le centre chrétien Emmanuel situé à Goli, dans le district de Yé, au sud-soudan. Elle a coûté la vie de trois gardiens, un élève du secondaire et quatre enfants du primaire, parrainés par portes ouvertes, ainsi qu'un père et son fils réfugiés dans le centre. Les agresseurs, des soldats des forces gouvernementales, ont violé la fille de 14 ans d'un membre du personnel. Les bureaux, la bibliothèque, les salles de classe de l'établissement et les maisons du personnel ont été vandalisées et pillées. Cette attaque laisse des personnes forcément profondément traumatisées, notamment les professeurs témoins de l'assassinat de leurs élèves. Il n'y a que quelques jours. Seigneur, agis pour ces familles et toutes ces personnes qui vivent. Ont vécu ces choses terribles. Il y a plein de situations, mes amis, où des personnes sont hostiles à l'évangile. Et on pourrait faire toute une liste, n'est-ce pas? Mais quand les gens sont opposés à l'évangile, il y a un problème pour nous croyants. Sommes-nous encore prêts à prier pour ceux qui persécutent? Sommes-nous encore prêts à partager l'évangile? Est-ce que nous sommes encore prêts à croire que Dieu peut transformer le cœur de tous ceux qui rejettent la foi? Ce matin, je vais donner trois vérités indispensables. Trois vérités indispensables pour persévérer dans la prière et le témoignage face à l'opposition. Nous continuons notre série de messages sur le livre des Actes. Nous arrivons maintenant au chapitre 9. Le début du chapitre 8 nous montre l'ambiance dans laquelle l'Église se trouvait. Je cite donc le début du chapitre 8. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'Église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Quelques hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église, allant de maison en maison pour en arracher les croyants, hommes et femmes, et les jeter en prison. Fin de notre lecture. Après l'exécution d'Étienne, Étienne est un chrétien, il est dit qu'une violente persécution se déchaîne contre l'Église de Jérusalem. Saul est un homme terrible qui a un seul but, détruire l'Église, jeter en prison tous les croyants. Et quand on parle d'Église, il est important de savoir que quand on parle d'Église, on ne parle pas de bâtiments, mais des personnes, des croyants. Qui est Saul? On ne sait pas grand-chose de la vie de Saul avant qu'il n'apparaisse à Jérusalem comme persécuteur des chrétiens. Bien que né à Tarse, un centre d'éducation, et citoyen romain, il était pharisien. Il a cependant étudié à Jérusalem avec Gamaliel, alors qu'il n'était qu'un jeune homme. Et un violent opposant au christianisme, il fut officiellement désigné pour diriger la campagne contre les chrétiens. Voilà donc ici un homme très dangereux pour les chrétiens. Alors, maintenant que nous avons vu très rapidement un peu l'ambiance dans laquelle se trouvait l'Église et présenté Saul, je vais donner la première vérité indispensable pour persévérer dans la prière et le témoignage face à l'opposition. La première vérité est celle-ci. Dieu est capable d'agir sans nous. Amen. Lisons le chapitre 9, donc, les versets 1 à 5. Actes, chapitre 9, les versets 1 à 5. Saul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis moi, Jésus, que tu persécutes. » Wow. Dieu est capable d'agir sans nous. Il n'y a pas du tout d'apôtre, pas de chrétien sur le chemin de Damas. Jésus lui-même se révèle à Saul. Il est tout seul. Jésus agit seul. Combien de fois avons-nous entendu parler de personnes qui ont eu un rêve ou une révélation où Jésus-Christ s'est révélé à elles? Vous avez entendu des témoignages comme cela? Des personnes qui ont prié, qui ont eu une vision et Jésus s'est révélé à ces personnes. Même si nous avons la responsabilité d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, nous devons avoir cette profonde conviction que Dieu nous devance. Il est à l'œuvre avant nous et il peut même agir sans nous. Alors très certainement que les chrétiens étaient en prière pour que Saul rencontre Jésus-Christ. Mais retournons cela, Dieu capable d'agir seul, sans nous. Il peut susciter nos prières, susciter les personnes, il peut lui-même faire le travail. Je me souviens du jour où j'étais découragé de voir combien de jeunes, des jeunes de l'Église ne plus venir au groupe de jeunes, et ces jeunes ne venaient peut-être pas ou très rarement à l'Église. Et je me dis, mais comment on peut atteindre les jeunes s'ils ne viennent pas? Et Dieu m'a donné cette conviction. Manu, je ne dépends pas du groupe de jeunes. Je ne dépends pas de l'Église. Je ne dépends pas de toi ni d'une préparation d'études ou quoi que ce soit que tu pourrais faire. Je peux agir dans ces jeunes sans toi. Je peux agir en eux là où ils sont. Amen. Quelle consolation, quelle consolation pour nous. Dieu ne dépend pas de nous pour toucher les personnes autour de nous. Ah, mais on en finit de témoigner avec quelqu'un et la personne nous a dit des choses et la personne est athée peut-être et puis on a fini la discussion, on dit mais j'aurais dû dire ça. Vous ne reconnaissez pas dans ça? Qui est Dieu? N'est-il pas ce grand Dieu qui peut se révéler aux personnes? En qui faisons-nous confiance? À nos propres capacités, quoi. C'est Dieu qui est tout-puissant et qui peut se révéler aux personnes. Dieu ne dépend pas de nous, les amis. Cela n'enlève pas la responsabilité, je le répète, d'être des témoins. Mais Dieu nous devance dans la mission d'annonce de l'Évangile. Quel immense encouragement pour nous ce matin. Jésus-Christ se révèle à Saul, un persécuteur. Quelle grâce pour lui. Lui qui était responsable, non, l'un des responsables, de cette campagne, comme on disait, pour tuer et arrêter les croyants. Et quel immense encouragement pour puissance de Dieu. Saul tombe par terre, totalement ébloui par Jésus-Christ. Ce qui me touche dans ce texte, c'est que Jésus, à deux reprises, dit qu'il est persécuté par Saul. Jésus s'identifie tellement à son Église qu'il bâtit qu'elle est pour lui comme la prunelle de ses yeux. Si tu touches à mon Église, tu me touches moi. Si tu touches à un de mes enfants, si tu frappes un de mes enfants, tu me frappes moi. Les mamans peuvent se reconnaître là-dedans quand votre enfant est triste, etc. Il y a une compassion, quelque chose de très fort qui est vécu, n'est-ce pas? Jésus s'identifie tellement à son Église. Il y a de quoi être repris pour nos croyants. Quand nous sommes dans la médisance envers un croyant, un autre croyant, quand nous ne voulons pas régler une situation et restons dans le conflit, l'amertume dans l'Église. Mes amis, quand nous sommes en plein conflit avec un croyant et que nous laissons cela continuer, nous sommes en plein conflit avec Jésus-Christ lui-même. Quand nous sommes très peu engagés envers l'Église, quand l'Église n'a pas vraiment notre priorité, cela veut dire aussi que Jésus-Christ n'a pas vraiment la première place dans notre vie. Parlons de la persécution des croyants. Écoutez ceci. Toutes les fois où l'Église de Dieu est persécutée, Jésus-Christ souffre. Toutes les fois où les croyants sont insultés, frappés, emprisonnés, violés, tués, Jésus-Christ souffre. Même s'il a tout pouvoir, il est à la droite du Père. Même s'il peut faire des choses extraordinaires, même si Jésus-Christ nous a prévenu que nous croyons nous serons persécutés, ça fait partie du programme. Il en sera, Jésus en sera toujours fortement touché et attristé. Pourquoi? Parce que son amour pour ses enfants immense. Jésus-Christ, devant Saul, lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Pas, pourquoi tu persécutes les croyants? Pourquoi tu persécutes les chrétiens? Pourquoi tu persécutes l'Église? Non, pourquoi me persécutes-tu? La première vérité indispensable pour nous ce matin, pour persévérer dans la prière et le témoignage face à l'opposition, c'est que Dieu est capable d'agir sans nous. Deuxième vérité, Dieu est capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Dieu est capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Continuons notre lecture à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. C'est Jésus qui continue à s'adresser à Saul. Il lui dit, mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets et de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, mais avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit, « Ananias, oui Seigneur, répondit-il. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas. Demande à voir un nommé Saul, originaire de Tarse, car il prit et dans une vision. Il avait un homme du nom d'Ananias entré dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. » Alors, à entendre ça, on peut penser à Ananias qui commence à trembler. « Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les juifs, les chefs, les prêtres, pour arrêter tous ceux qui te prient. » Mais le Seigneur lui dit, peut se dire, Saul, il va plus loin et dit, mon frère, waouh, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit des forces. Fin de notre lecture. Dieu est capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Alléluia. Saul va vivre plusieurs choses, plusieurs étapes après avoir vu Jésus-Christ. Il jeûne pendant 3 jours. Pas d'eau ni de nourriture. Pas simple, hein? Est-ce que c'était volontaire? Très certainement. Ensuite, il est dit qu'il prie. Et puis, il reçoit une vision. Il sait qu'Ananias viendra à lui pour lui rendre la vue. Ananias vient, lui impose les mains. Et Saul recouvre la vue. Et à la fin, Saul se fait baptiser. Tout ça pour dire que Saul change de vie. Il vit la repentance et place sa foi en Jésus-Christ par le baptême. Il vit une relation avec Dieu parce qu'il est dit qu'il prie et en plus il reçoit une vision. Dieu commence à lui parler. Saul, qui était contre l'évangile de Jésus-Christ et contre les chrétiens, se trouve maintenant touché par la grâce et l'immense amour de Jésus-Christ. Waouh! C'était très dur pour Ananias, on peut le comprendre, de croire à une chose pareille. Voilà pourquoi. Comme vous l'avez vu dans les versets 13 à 14, il rappelle les choses à Dieu comme si Dieu ne le savait pas. Hein. Mais Seigneur, répliqua Ananias, j'ai entendu parler de cet homme, de plusieurs, etc. Donc il dit les choses à Dieu comme si Dieu ne savait pas tout ça. On peut comprendre Ananias. Il y a de quoi avoir peur d'avoir face à lui un persécuteur. Que va-t-il me faire? Est-ce que je vais me faire arrêter? Va-t-il me faire mourir? Parce que l'histoire d'Étienne, elle n'était pas très longtemps. Étienne s'est fait lapider. Mais à ce moment précis, Ananias avait un problème, qui est souvent le nôtre. Il était plus conscient du problème que de la puissance de Dieu. Mes amis, je l'ai souvent dit ici, ne dites pas à Dieu que vous avez de grands problèmes. Mais dites à vos problèmes que vous avez un grand Dieu. Changeons de perspective. Combien nous oublions très facilement dans nos difficultés que Dieu est grand. Peut-être que tout comme moi, face aux gens endurcis, vous préférez vous taire et ne plus parler de Jésus-Christ. Peut-être comme moi, vous avez du mal à prier pour les gens qui vous persécutent ou pour ceux qui rejettent l'Évangile. Peut-être que vous avez du mal à prier encore aujourd'hui pour des personnes, peut-être dans votre famille, et vous dites, mais ça fait tellement d'années, et puis quand je vois comment il est, je me dis, il ne va jamais venir à Christ celui-là. C'est pas possible. Je ne vais pas dire le nom, mais une personne qui s'est fait baptiser ici avait parlé à une personne cette personne était surprise de sa conversion et lui avait dit, tu sais, j'avais arrêté de prier pour toi. J'y croyais même pas. On fait partie hein, tous de ces personnes qui peut-être manquent de foi, n'est-ce pas? Ce matin, la conversion de Saul devrait nous encourager, t'encourager à continuer à croire dans la puissance de l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Avons-nous abandonné un sujet de prière? Avons-nous arrêté d'espérer en Dieu pour le salut d'une personne? Sommes-nous bloqués face aux personnes qui nous paraissent trop dures pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Mes amis, Dieu est capable de toucher les cœurs les plus endurcis. Alors continuons à prier pour ceux qui se perdent loin de Dieu, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos collègues de travail, pour nos voisins. Continuons à croire que Dieu peut toucher leur cœur. Troisième et dernière vérité, indispensable, pour persévérer dans la prière et le témoignage. Dieu est capable d'utiliser puissamment. Jésus répond ainsi à Ananias, on l'a dit tout à l'heure, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Jésus a choisi Saul. Il a un plan. Il veut l'utiliser puissamment. Ça, c'est un plan, le plan que Dieu a pour lui. Et écoutez la suite. Les versets 20 à 23, c'est impressionnant. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Tellement le témoignage de Saul était fort. Saul va proclamer que Jésus-Christ est le Messie, celui qui sauve du péché et de la mort, qui donne la vie éternelle. Tous les auditeurs n'en reviennent pas. Il persécutait les chrétiens. Maintenant, il est devenu chrétien, il proclame Jésus-Christ haut et fort. Quel énorme changement! Saul va ensuite s'appeler Paul. Il aura un ministère d'apôtre. Il va être un fou de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est prêt à mourir mille fois pour lui. Il va être un outil puissant entre les mains de Dieu pour bâtir des églises, les affermir et écrire des lettres d'encouragement qui seront inspirées par l'Esprit et qui sont aujourd'hui dans la parole de Dieu, qui sont des encouragements pour nous. Et on pourrait prendre le temps pour voir quels sont les versets qui nous encouragent au quotidien. Et assez souvent, on tombe sur les lettres de Paul. La plus grande partie du Nouveau Testament est écrite par cet homme-là, un persécuteur de chrétiens touché par la grâce de Dieu. C'est tellement touchant et encourageant. Tout au long de l'histoire, il y a eu tellement de nombreuses personnes qui, à plusieurs vues, étaient trop dures pour venir à Christ à cause de dépendances terribles, d'un passé trop lourd, de possessions démoniaques, d'hostilité trop intense concernant Dieu. Mais ces personnes sont venues à Jésus-Christ et sont devenues des personnes que Dieu a utilisées puissamment. Peut-être que vous en connaissez, je pense moi au pasteur David Wilkerson. Et je me dis, comment il a fait pour croire que Nicky Cruz allait un jour venir à Jésus-Christ? Tu connais cette histoire? En tout cas, sur Internet, son histoire est en... Il y a le film, et vous pouvez le revoir du début à la fin. Moi, toutes les fois, j'arrive à la fin, je pleure, mais waouh! Tellement c'est touchant de voir comment Dieu transforme le cœur de cette personne. Nicky Cruz a été, écoutez bien, élevé par un père qui s'était livré entièrement à la sorcellerie. Son père parlait à Satan, c'était courant. Son père avait consacré tous ses enfants au diable. Sa mère l'a renié au point de dire, « Tu es une malédiction, tu es fils de Satan. » Il y a de quoi endurcir le cœur d'un enfant ici. Son cœur était rempli de haine et d'amertume. Nicky a vécu son adolescence dans les ghettos de New York. Il est devenu le chef de l'un des gangs les plus terribles de la ville. Ce qui faisait son quotidien, ce sont les bagarres, les meurtres, les drogues, les viols, les agressions. C'était la chose habituelle. David Wilkerson a prié. Il a témoigné son amour et a proclamé la bonne nouvelle de Jésus-Christ à cet homme-là. Le jour où il a osé entrer là où se trouvait le gang, il a commencé à parler à Nicky. Et Nicky lui a craché au visage, l'a battu, mais fortement au point que les gens l'ont retenu. Et David s'est relevé ces mots forts. Qui je suis, je suis venu ici. C'est parce que Dieu m'a appelé pour te dire qu'il t'aime. Un homme, comme dit le Dini qui dans son témoignage, David était un homme tout maigre, mais combien fort dans la foi. Et cet homme, lui-même, quand il a dit ça à Nikki, il a dit quelque chose de très fort. Je tremble, j'ai peur. On peut avoir peur face à des situations. On peut être dans des situations où les gens sont totalement bloqués à l'évangile. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusque-là pour la cause de l'évangile, pour que Christ touche le cœur de ceux qui ne le connaissent pas? C'était très dangereux. David a failli perdre la vie. Mais Nikki, qui avait rejeté de toutes ses forces l'évangile de Jésus-Christ, a été touché par l'immense amour de Dieu. Il est devenu un orateur qui a touché des milliers et des milliers de personnes. Mes amis, soyons comme David. Croyons dans la puissance de Dieu. Il est capable de toucher les cœurs des personnes les plus endurcies. Je vais maintenant conclure. Gardons précieusement ces trois vérités indispensables pour persévérer dans la prière et le témoignage face à toute personne, toutes sortes de personnes qui s'opposent à Jésus-Christ, ou des personnes que nous voyons et nous disons c'est impossible que cette personne vienne à Christ. Rappelons-nous ceci. Dieu est capable d'agir sans nous. Dieu est capable de toucher le cœur des personnes les plus endurcies. Dieu est capable d'utiliser puissamment ceux qui le rejetaient. Et comme on est dans la fête des mères, j'ai envie de dire, je n'étais pas du tout un enfant jusqu'à 18 ans où les gens se disaient, Manu va se convertir. L'insolence, c'était terrible. Mais j'avais une maman qui a su prier, qui ne s'est pas arrêtée. Je ne dis pas qu'elle avait une foi énorme, et c'est pas ça que Dieu attend de nous, d'avoir forcément une foi énorme, mais d'être dans la prière. Pour vous qui êtes mère, pour vous qui êtes père aussi, priez pour vos enfants. Prions pour nos enfants. Je vais prier. Dieu notre Père, pardon pour toutes les fois où nous avons manqué de foi. Pardon pour toutes les fois où nous avons arrêté de prier et de témoigner face à des personnes qui se montraient opposées à l'évangile ou trop dures pour te recevoir dans leur vie. Pardon aussi pour les sujets où nous avons mis une croix, nous sommes dit, de toute façon, ça fait tellement d'années, je ne vois rien, ça ne sert à rien. Pardon, Seigneur. Aide-nous à persévérer dans la prière et à témoigner, à continuer à témoigner, quelles que soient les circonstances, parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Aide-nous à nous rappeler que tu es capable d'agir sans nous, de toucher les cœurs les plus endurcis et enfin de les utiliser puissamment. Voulons-nous rappeler cela ce matin et que ces vérités nous portent jour après jour pour que nos prières soient incessantes et pour que nous soyons toujours prêts à témoigner, à être des témoins de qui tu es partout où nous sommes. Nous attendons à toi pour que des milliers de personnes se tournent vers toi encore aujourd'hui, demain et après-demain, et encore, touche des cœurs, transforme des vies, utilise-nous pour atteindre tous ceux qui ont besoin de toi. Merci parce que tu es à l'œuvre dans ce monde. Tu nous devances. Que ton nom soit sanctifié.